VOA Afrique, les infos à Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guériec pour ce bulletin d'information. Le point sur la première opération du G5 Sahel, une colonne de pick-up malien armé progresse lentement dans la zone frontalière avec le Burkina Faso et le Niger. Une vingtaine de blindés de la force française Barkhane assure la sécurité également dans le convoi. Et Niger, trois dirigeants de la société civile ont été inculpés et écroués après la violente manifestation de dimanche contre la loi de finances 2018, jugée antisociale par les protestataires. C'est ce qu'ont indiqué leurs proches. Il s'agirait d'Abbas Abdulaziz, Abdoulaye Harouna et Djibo Issa, indique l'AFP. Le gouvernement nigérien a ordonné la fermeture de 14 établissements privés de santé, qualifiant la situation d'alarmante. Le ministre de la Santé affirme que ces sanctions ont été prises après des mois de contrôle dans des cliniques, cabinets de soins, pharmacies et maternités. La réglementation, la législation et les procédures d'ouverture de ces établissements n'y sont pas respectées, affirment les autorités. Toujours au Niger, une nouvelle commission électorale nationale indépendante a été installée à Niamey pour la présidentielle de 2021. C'est ce qu'a annoncé la radio nigérienne. La nouvelle CPI, composée des représentants de la coalition au pouvoir, de l'opposition et de la société civile, est dirigée par l'avocat Issa Kassouna, qui avait déjà présidé la commission en 1999. Il faut dire que l'actuel président, Mahamadou Issoufou, a d'ores et déjà annoncé qu'il ne sera pas candidat. Lutte contre le groupe État islamique en Somalie. Les États-Unis annoncent avoir mené deux frappes de drones contre l'organisation djihadiste. L'opération menée en coordination avec le gouvernement somalien. Plusieurs terroristes ont été tués, d'après le Pentagone. Migration vers l'Europe. Les 23 personnes ont été récupérées en Méditerranée. C'est ce que rapporte l'opération navale européenne EUNAVFOR Med. Au Nigeria, le groupe vengeur du Delta au Niger a déclaré la fin du cessez-le-feu dans la région du sud-est du pays, riche en pétrole. Fusillade à Marrakech, la police marocaine privilégie la piste du règlement de compte dans l'attaque de jeudi soir qui a fait un mort et deux blessés. Des centaines de policiers ont manifesté à travers la Tunisie. C'est au lendemain du décès d'un des leurs, poignardé non loin du Parlement. Il réclame l'adoption d'un projet de loi très controversé visant à protéger les forces de sécurité. Une citoyenne américaine arrêtée au Zimbabwe, travaillant pour une chaîne de télévision privée, on lui reproche d'avoir comparé le président Mugabe à un lutin dont la femme et le fils ont acheté une Rolls-Royce.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Dans le reste du monde, la justice espagnole a lancé un mandat d'arrêt européen contre le président catalan destitué, Carles Puigdemont, et quatre de ses ministres pour rébellion, sédition, détournement de fonds publics et désobéissance à l'autorité. Repliés en Belgique, ils ont refusé de comparaître en Espagne. Le groupe djihadiste État islamique a perdu deux importants fiefs en Syrie et en Irak en 24 heures, dont Deir ez-Zor, la dernière grande ville sous son contrôle dans ces deux pays voisins. Retranchés dans une zone à cheval entre l'est de la Syrie et l'ouest de l'Irak, les combattants de l'organisation font face à des offensives des deux côtés de la frontière. Les forces irakiennes disent avoir chassé d'Al-Qaïm et du poste frontière proche de cette localité qui relie l'Irak à la Syrie. La procureure de la Cour pénale internationale va demander l'autorisation au juge d'ouvrir une enquête au sujet de crimes de guerre présumés commis dans le cadre du conflit armé en Afghanistan. Voilà pour ce bulletin d'information. Au micro, c'était Morgane Guériec.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Welcome to Business English. Bienvenue à notre émission consacrée à l'anglais commercial aux États-Unis. Dans ce programme, vous participerez à des voyages d'affaires, à des conversations téléphoniques, à l'échange de messages e-mail et à des interviews. Au micro, Michel Joseph. Prochaine étape, vous entendrez une interview, une présentation d'affaires, si vous voulez, durant laquelle la personne interviewée parle de son éducation, sa formation professionnelle, sa carrière et son expérience. Et en anglais commercial, il y a un mot qui résume tout cela, c'est le mot « background ». La personne parle de son « background ». Répétez, « background ». Cette personne s'appelle Gary.
Interview.
En français, on dit aussi interview, qui vient de l'anglais et qui signifie un entretien avec une personne ou plusieurs personnes, un entretien professionnel en général. Dans l'interview qui suit, l'hôtesse d'une rubrique de radio, Elizabeth, accueille Gary. Welcome to our show. Bienvenue à notre programme.
Hello Gary, welcome to our show.
Elle veut ensuite en savoir plus sur Gary et son background professionnel.
Gary, let's tell our listeners a little about your background.
Tout d'abord, un petit aperçu de vocabulaire. Quand on obtient une licence d'université, on dit I got my BA, ce qui veut dire Bachelor of Arts.
I got my BA there in 1979.
La licence aux États-Unis. C'est après 4 ans d'études universitaires. On peut aussi dire « I got my BS », ce qui veut dire « Bachelor of Science ». Ensuite, Gary dit qu'il a obtenu sa maîtrise en gestion des affaires. « I got my MBA ».
Then I went to Harvard Business School to do an MBA.
MBA. Aux États-Unis, cela veut dire « Masters of Business Administration ». Pour une maîtrise générale, on dit « I got an MA, qui signifie Masters of Arts, ou bien I got an MS, une maîtrise en matière scientifique, Masters of Science. Ensuite, Gary parle de sa formation en linguistique.
My training is in linguistics.
Linguistics. Vous allez aussi entendre I started my own business.
After I got my MBA, I started my own business.
J'ai ouvert ma propre boîte, ma compagnie, mon magasin. En anglais, le terme « business » couvre tout cela. « My own », le mien, ou « à moi ».« To start », commencer. « I started », c'est le passé. « J'ai commencé ». Les questions les plus courantes venant de l'intervieweur « How did you ?» Comment avez-vous? Where did you? Où avez-vous? Par exemple, where did you study?
Where did you study linguistics?
Où avez-vous fait vos études? Et les expressions de la part de la personne interviewée? What do you want to know? Que voulez-vous savoir? What do you want to know? I studied at... Une réponse courante... I studied at, c'est le passé du verbe to study. I studied at UCLA, à l'Université de Californie, à Los Angeles. Écoutez, listen.
Hello, Gary. Welcome to our show.
Hello, Elizabeth. It's great to be here.
Gary, let's tell our listeners a little about your background.
Sure. What do you want to know?
How did you get into the language consulting business?
Well, my training is in linguistics.
Oh, where did you study linguistics?
I studied at UCLA.
That's the University of California at Los Angeles, right?
Right. I got my BA there in 1979. Then I went to Harvard Business School to do an MBA. After I got my MBA, I started my own business.
À vous de répéter après moi dans un contexte qui vous est plus familier. Listen and repeat.
What is your background? Tell me a little about your background. Décrivez-moi un peu votre expérience professionnelle. What is your background? My background is in teaching. Par exemple, mon expérience professionnelle est dans l'enseignement. Répétez après moi. My background is in agriculture. My background is in mechanics. My background is in shopkeeping. Gérant de magasin. My background is in factory work. Ouvrier d'usine. Écoutez les phrases suivantes et les variations suivantes. Même si vous ne les comprenez pas toutes, je les traduirai pour vous, mais répétez quand même la phrase en anglais.
My training is in linguistics.
I studied linguistics.
I got my BA.
I graduated with a BA.
After I got my MBA, I started a business.
After I got my MBA, I formed my own business.
My training is in. My training is in teaching. Littéralement, ma formation est dans l'enseignement. Je suis instituteur ou je suis institutrice. My training is in agriculture. My training is in mechanics. My training is in marketing. Je suis formée en marketing. Et c'est tout pour cette leçon de Business English, l'anglais commercial. That's it for today. Until next time, à la prochaine fois. English USA vous présente African Voices in Conversation, des conversations en anglais qui ont attrait à la vie quotidienne au Sénégal. Pour télécharger ces leçons, allez sur le site internet www.lavoixdelamérique.com, cliquez sur « Apprenez l'anglais » et retrouvez les leçons d'anglais spéciales Sénégal. Toutes les requêtes ne sont pas faciles. Uncle Dauda ne dira pas le contraire, surtout en matière d'amour et de mariage. Nous allons écouter Uncle Dauda s'entretenir avec son neveu Badou. Vous allez répondre vrai ou faux, true or false, aux phrases que vous allez entendre. 1. Badou ne veut pas épouser Amina. 2. Uncle Dauda est le père d'Amina. Vous répondrez ensuite à ces questions. 1. Quelle faveur l'oncle Sami fait-il à Uncle Dauda? 2. Pourquoi Badou n'accepte pas cette faveur? 3. L'oncle et son neveu ne s'entendent pas sur deux choses. Lesquelles? Vous apprendrez comment faire une requête, en d'autres termes, comment demander quelque chose de manière formelle en utilisant le conditionnel de politesse « would you ?» Nous allons écouter ce couple.
Are you at peace, uncle? Of course, nephew. You are a big man now. Badou, your uncle Sami has done us a great favor. He has agreed to give you the hand of his daughter, Amina.
How kind of him. That's a great favor. But, uncle, I didn't ask for this great favor.
No, you didn't. I did. Would you do me a favor?
What favor?
Would you marry Amina, your cousin?
How could you ask such a thing? I don't love Amina, uncle. Would you mind if I married a girl I love?
Badou, you must respect the tradition.
But, Uncle Dauda, I have a girlfriend.
My nephew, I'm talking about a serious matter. I'm talking about Marriott.
I'm talking about a serious matter, too. I'm talking about love.
What is love?
I'm not sure, but I'm sure I love my girlfriend.
Would you bring shame on your Uncle Sami? Would you bring shame on Amina, on me, on your family?
This is not a matter of shame. It is a matter of love, of feelings, of the heart.
No, I'm sorry, nephew. It's a matter of marriage, of reason, of the head.
Dans ce dialogue, nous avons entendu Uncle Dauda faire une requête plutôt difficile auprès de Badou, son neveu. L'énoncé 1 est vrai. Badou ne veut pas épouser Amina. L'énoncé 2 est faux. Uncle Dauda est le père d'Amina. Voilà les réponses aux trois questions. 1. Quelle faveur l'oncle Sami fait-il à Uncle Dauda? Il accepte d'accorder la main de sa fille à Badou. 2. Pourquoi Badou n'accepte-t-il pas cette faveur? Parce qu'il ne l'a pas demandé. 3. L'oncle et son neveu ne s'entendent pas sur deux choses. Lesquelles? Sur le mariage et sur l'amour. Écoutez et répétez la phrase.
Would you do me a favor? Would you marry Amina, your cousin?
Ces expressions expriment une demande polie. Répétez aussi. Would you accept my proposal? Would you help me open the door? Would you listen to me? On peut également demander poliment une permission avec would you. Par exemple,
would you mind if I married a girl I love?
Nous avons entendu Uncle Dauda et Badou. Vous avez répondu true or false aux énoncés et répondu aux questions. Maintenant, vous savez faire une requête ou demander la permission de faire quelque chose poliment. Pour plus de renseignements au sujet des cours d'anglais, Learning English, allez au site internet suivant à americanenglish.state.gov ou à voalearningenglish.com. Au cours de cette leçon, vous apprendrez à demander à quelqu'un d'où il est originaire. Pensez à vos voisins anglophones du Ghana, du Nigeria, de la Sierra Leone, du Cameroun. Pensez au nom de leur pays en anglais et de leur ville. Comment vous demanderiez à quelqu'un leur ville ou leur pays natal? Bien sûr, vous apprendrez aussi à dire à quelqu'un la ville ou le pays que vous habitez. English USA est diffusé en direct de Washington, au micro Michel Joseph. Aujourd'hui, Martin Lerner va interviewer Stefan Novak dans un café et lui demander d'où il vient. Quelques mots d'abord pour vous faciliter le travail. A waiter, un garçon de café. What are you going to have? Qu'est-ce que vous voulez? Two coffees, deux cafés. Tell me your name. Dites-moi votre nom. Spell it. Épelez-le. Where are you from? D'où venez-vous? What country? What city? Quel pays? Quelle ville? I live in Chicago. I live in Baltimore. Sometimes I don't understand. Quelquefois, je ne comprends pas.
Hi, Stefan. Please sit down.
Hello, Mr. Lerner.
Oh, please call me Martin, okay?
Martin. Okay.
Morning. What are you going to have?
Two coffees, please.
That's it? Okay.
What did she say?
She said, what are you going to have? What are you going to have? What are you going to have?
Ah, what are you going to have? Sometimes I do not understand waiters.
Sometimes I don't understand.
Here you are. Two coffees.
Thanks. She said, here you are.
I understand.
Stefan, I'm writing a news report. It's going to be about students in the United States, and I want to write about you.
You are going to write about me? Okay.
First, tell me your full name.
My name is Stefan Novak.
Please spell it for me.
S-T-E-F-A-N-N-O-W-A-K.
Where are you from?
I am from Poland.
I know you're from Poland. What city are you from? Warsaw?
No, I'm not from Warsaw. I'm from Krakow. Where are you from?
I'm from Chicago, but I live in Baltimore now.
I lived in Warsaw, too.
Before I lived in Baltimore, I lived in many cities. I lived in Washington, San Francisco, Paris, and Berlin.
That's many places.
Well, I write news stories and reports.
More coffee?
Écoutons une partie de cette conversation.
Where are you from?
I'm from Poland.
What city are you from?
I'm from Krakow. Where are you from?
I'm from Chicago.
Et maintenant, pouvez-vous le dire vous-même? Essayez de répondre à ces questions. Where are you from? What city are you from? Allez-y.
I'm from Chicago. Where are you from?
I'm from Krakow. Where are you from?
On répond aux questions qui commencent avec « where » et qui finissent avec « from » en donnant le nom d'un pays, d'une région, d'un état ou d'une ville.
Where are you from?
I'm from Poland.
Where?
Poland. Where are you from?
I live in Baltimore now, but I'm from Chicago.
I live in Baltimore now too.
Pouvez-vous répondre à ces questions?
I live in Baltimore now. Where do you live?
I live in Baltimore too. Where do you live?
More coffee?
Yes, please.
Thank you. Excuse me, where are you from?
Here.
Where?
Here. I'm from Baltimore. Where are you from?
I live in Baltimore.
I lived in Florida last year. I lived in California. I lived in Texas. I lived in Ohio, New York.
Martin Lerner et Stefan Novak sont dans un café. Martin apprend que Stefan est étudiant à l'université Johns Hopkins et il rencontre l'ami de Stefan, Susan. Quelques mots pour vous donner un petit coup de pouce. I live in Chicago. J'habite Chicago. Le passé. I lived in Chicago. J'habitais Chicago. I work in Baltimore. Je travaille à Baltimore. Le passé. I worked in Baltimore. Je travaillais à Baltimore. There's my friend. Voilà mon ami. Where do you live? Où habitez-vous? Where did you live? Le passé. Where did you live? Où habitiez-vous?
Okay, Stefan. You live in Baltimore now. What do you do in Baltimore?
I am a student.
Where?
At Johns Hopkins University.
That's very interesting.
More coffee?
No, thank you.
No, thanks. Let's listen to our tape, Stefan. There we are.
My name is Stefan Novak. Please spell it for me. S-T-E-F-A-N-N-O-W-A-K. Where are you from? I'm from Poland.
I know you're from Poland. What city are you from? Warsaw?
No, I'm not from Warsaw. I'm from Krakow. Where are you from?
I'm from Chicago. That sounds good.
Écoutez encore une partie de cette conversation et puis essayez de répondre aux questions vous-même. Par exemple, I'm from Trinidad and Tobago. Where are you from?
I'm from Poland. Where are you from?
I'm from Chicago. What city are you from?
I'm from Krakow.
Maintenant, essayez de répondre.
I'm from Chicago. Where are you from?
I'm from Krakow. Where are you from?
Écoutez encore une fois.
I live in Baltimore now.
I live in Baltimore too.
I live in Baltimore. I lived in Florida last year.
I lived in Berlin.
I lived in Warsaw.
Pour exprimer le passé en anglais, on change la terminaison du verbe. Par exemple, I live, j'habite, c'est-à-dire maintenant. I lived, j'habitais il y a quelque temps. I live in Baltimore now. J'habite Baltimore maintenant. I lived in Baltimore last year. J'habitais Baltimore l'année dernière.
Let's go on. You live in Baltimore. You're a student at Johns Hopkins University. Where did you live last year?
I lived in Warsaw last year. I worked in Warsaw for 2 years.
What did you do?
I worked in a hospital. I worked in the office.
What did you do in the office?
There's my friend Susan. Susan! Sorry, Martin. I want you to meet Susan.
Good morning.
Good morning. I'm Martin Lerner.
Hello. I'm Susan Wolf.
Martin is a reporter. He is writing a story about me.
Really? Why?
Because I'm from Poland.
And he's a student. He's studying at the university. Where are you from, Susan?
I'm from Ohio.
What do you do?
I'm a student, too.
What do you study?
I study music. I'm a musician.
Wonderful. Do you live in Baltimore?
I live in Baltimore now. I lived in Washington last year.
What are you going to have?
What?
She said, what are you going to have?
Nothing, thank you. I'm going to study now. Goodbye, Mr. Lerner. Bye, Stefan.
Goodbye.
Goodbye, Susan.
Pour former le temps passé, vous ajoutez « d » ou « ed » à la fin de la plupart des verbes. C'est très subtil, mais essayez de saisir. « I live », j'habite. « I lived », j'habitais. « I work », je travaille. « I worked », je travaillais. Vous avez appris aujourd'hui à dire où vous habitez maintenant et où vous habitiez il y a quelque temps. English USA est diffusé en direct de Washington. Au micro, Michel Joseph. Goodbye. La